Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur les Radio Campus. Nous sommes en direct des Assises du journalisme de Tours pour 1h30 d'émission. Je suis Antonin, l'animateur de cette émission, et je suis pas seul, je suis vraiment loin d'être seul. Déjà, François nous accompagne pour notre plus grand plaisir à la technique, et nous sommes toute une équipe de rédaction composée des services civiques de Radio Campus. Cette émission est organisée par Radio Campus France, accueillie par Radio Campus Tours et diffusée sur les Radio Campus. Nous sommes au Palais des Congrès pour les Assises du journalisme de Tours.
International du journalisme de Tours 2025. Faits divers à la une, avec les radios du réseau Radio Campus France.
Vous êtes bien sur Radio Campus pour une émission en direct des Assises de Tours. Comme vous l'entendez, il y a beaucoup de monde derrière nous. Plusieurs journaux, dont Reporters sans frontières, Ouest France Brut ou encore La Nouvelle République, sont présents. Les écoles du journalisme comme le JP, l'école publique du journalisme de Tours et même plusieurs radio-lycées ont leurs micros branchés, prêts à être interviewés. De notre côté, sur Radio Campus, on va recevoir à notre micro plusieurs journalistes qui vont nous parler du thème des Assises du journalisme de Tours. Donc restez connectés sur Radio Campus. Si vous endormez avec des podcasts de criminels en série, que vous achetiez le journal pour aller directement à la page des faits divers, restez à l'écoute de Radio Campus, puisqu'on va avoir l'occasion de décortiquer ce thème, si vous ne l'avez toujours pas compris, le thème des Assises du journalisme et le fait divers. Alors, comment les comprendre? Comment les traiter? C'est ce qu'on se demandera en première partie. Ensuite, on se demandera pourquoi le fait divers fascine-t-il? Pour enfin aborder ensemble comment passe-t-on du fait divers au fait politique. Un programme très chargé. Alors on commence tout de suite avec la première interview. On reçoit Yann Guégan, chargé de l'innovation éditoriale chez Contexte depuis 2019 et vice-président du CDGM, le conseil de déontologie journalistique et de médiation depuis 2021. Bonjour.
Bonjour.
Et nous accueillons également Thomas Debré, excuse-moi, ancien localier.
On avait un Jean-Louis Debré, mais qui est décédé il n'y a pas très longtemps.
Ancien localier pour la République du Centre et journaliste chargé d'éducation aux médias à Radio Campus Orléans. Comment vas-tu?
Bonjour. Merci, ça va très bien. J'espère que vous aussi.
Avant de laisser la parole à nos invités, Manon de Radio Campus Toulouse nous présente sa chronique. Je te laisse la parole.
Merci. Les faits divers, ou autrement dit la rubrique des chiens écrasés, ces papiers, ces articles dont les titres nous ont toutes et tous interpellés maintes et maintes fois. En voici paru aujourd'hui dans La Nouvelle République, accident du travail, un employé gravement blessé à la jambe par un monte-charge. Et dans l'encart au-dessus, un motard tué à balles en Mairie en 2018, le demi-tour était bien en cause. Dans Ouest France, on lit aujourd'hui en Normandie, un homme se retrouve le pied bloqué sous un bus. Et on peut aussi remonter dans le temps de quelques mois ou de quelques années avec le procès ans, l'affaire du petit Émile ou encore celle de Xavier Dupont de Ligonnès, des affaires qui cette fois-ci ont quitté les pages de dernière file pour remplir les unes. À titre d'exemple, choisie minutieusement d'ailleurs, la une de l'Humanité du 19 décembre dernier qui titrait « Procès Pellicot, merci madame ». Mais revenons donc sur la question suivante, un fait divers, c'est quoi? Eh bien je laisserai les professionnels vous répondre, mais avant je me dévoue tout de même à vous citer quelques définitions trouvées ici et là. Selon l'encyclo Universalis, un fait divers est un événement d'importance secondaire et la rubrique de journal traitant de ces événements. Daniel Salle, dans son texte « L'irrésistible attraction du fait divers », publié sur le site Presse à la Une, une expo virtuelle réalisée en 2012 en partenariat avec le CLEMI et l'AFP, désolé c'est long, mais ici on cite ses sources, ajoute que ce terme apparu au début du 19e siècle, et oui ça date, désigne les inclassables de l'information, et carrément que c'est tout ce qui n'a pas trouvé place dans les rubriques habituelles, en gros, la poubelle. L'auteur s'appuie aussi sur la définition de Roland Barthes, beaucoup plus sensace d'ailleurs, pour le célèbre critique littéraire et sémiologue, le fait divers, en dépit de son aspect futile et souvent extravagant, porte sur des problèmes fondamentaux, permanents et universels, la vie, la mort, l'amour, la haine, la nature humaine, la destinée. En d'autres termes, le fait divers est assez révélateur de notre humanité et de ses facettes. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de lui trouver la juste rubrique. Bref, on commence à situer l'idée. Et on se rend compte que c'est assez large et qu'il y a beaucoup à dire. La preuve, les assises du journalisme de cette année sont sur le sujet. Mais alors pourquoi autant d'intérêt? Pourquoi on en parle autant de ces sujets abandonnés en dernière page? Souvent trash, arborant un titre vendeur et parfois mal tourné, qu'on se surprend souvent à rire devant le papier. Mais alors pourquoi tant de fascination? Cette fascination parfois morbide, voyeuriste. Et chers auditeuristes, vous ne pouvez pas dire le contraire, car ces exemples cités il y a un instant, vous les connaissez, vous avez peut-être même regardé volontairement des dizaines de documentaires sur ces affaires, popcorn en main. Et attention mesdames, messieurs, Ouest France, France Média Monde, France Télévisions et Radio France confirment mon propos avec un sondage via Voice effectué en vue des assises du journalisme qui annonce que 69% des Français se disent intéressés par les faits divers. Je cite d'ailleurs toutes ces rédactions, bien connues de toutes et tous, qui ont en leur sein les pièces maîtresses de ces faits divers. Car oui, on a parlé des sujets et de ceux et celles qui en sont intéressés, mais pour connaître et être intéressé ou non par un sujet, il faut s'informer sur ce dernier. Et qui informe? Qui les écrit ces fameux titres? Qui les raconte? Les faits diversiers, dans le jargon, les localiers et bien d'autres, les journalistes. Mais alors comment faire pour en parler de ces sujets parfois trash, intimes, pour respecter les victimes et leurs proches par exemple, ne pas être insultant, car oui, il y a des limites, une éthique si importante d'ailleurs dans cette profession, la déontologie journalistique. Eh bien le traitement de ces fameux et uniques faits divers est encadré, comme tant d'autres pans du journalisme, et de là, chers auditeurices, invités et journalistes, mes compétences de simple chroniqueuse lâchent l'affaire et préfèrent laisser place aux professionnels.
Merci à Manon pour cet éclairage sur les faits divers qui intéressent de plus en plus de monde et qui du coup soulèvent de plus en plus d'enjeux. Mais on passe tout de suite à l'interview de Ella de Radio Campus Grenoble et de Marius de Radio Campus Toulouse. À vous la main.
Donc, bonjour à vous deux. On va rebondir directement sur l'introduction de Manon en vous demandant qu'est-ce que vous définiriez comme étant un fait divers. Pour vous, qu'est-ce qu'un fait divers ?
Compliqué.
C'est dur de passer après Roland
Barthes. Compliqué, effectivement, après cette chronique. c'est difficile, en fait, parce que moi, je peux te donner ma définition telle que je l'ai perçue dans mes 6 années d'expérience en presse quotidienne régionale. C'est pas la définition que tu m'as donnée. La manière dont on traite le fait divers aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur les affaires de police, justice. C'est aujourd'hui les affaires que l'on retrouve dans les pages dédiées aux faits divers. Je dis, le fait divers peut être certainement quelque chose de plus large. Moi, la définition du fait divers, pour moi, je n'aimerais pas en fait me contenter de ce que j'ai eu l'habitude de faire en presse quotidienne régionale par rapport à cela. J'aimerais que le fait divers soit justement l'élément qui permette de mettre en lumière des problématiques concrètes de la société et de les traiter en profondeur, à l'instar un peu de ce que les féminicides ont pu raconter sur toute la notion de patriarcat qu'on a pu voir et constater avec les mouvements MeToo, par exemple. J'aimerais que le fait divers, dans son ensemble, c'est-à-dire pas uniquement sur la question du féminicide, mais bien d'autres choses, puisse raconter plus largement les problématiques de la société et que l'on puisse s'en emparer sur des papiers plus en profondeur. Ça se fait dans certains médias. De mon point de vue, peut-être pas assez.
D'accord. Voilà. Yann, quelque chose peut-être sur la question de la définition ?
Je pense qu'effectivement, dans le fait divers, il y a la définition de la chose, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans les autres pages. C'est ça, à l'origine, pourquoi on parle de fait divers, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que pour les journalistes, on parle aussi beaucoup de journalistes police-justice ou de rubrique police-justice. Peut-être que c'est un petit peu plus noble et un peu plus reconnu que fait diversier ou spécialiste des faits divers. Il y a toujours un peu connoté chien écrasé. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que derrière les faits divers, il y a souvent des faits de société. Et la question des féminicides, elle est intéressante. Comme moi, quand j'ai commencé à faire du journalisme vers les années 2000, quand il y avait une femme était tuée par son conjoint, on parlait de crime passionnel. On disait, on avait l'impression que c'était quelque chose qui était inévitable finalement, et qu'il n'y avait pas vraiment, à part le rapporter dans la rubrique faits divers et faire le compte rendu du procès derrière, on ne le rattachait pas à un phénomène de société plus large. Et puis au fil des années, on a commencé ne serait-ce qu'à les compter et à dire y a tant de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint cette année, c'est un peu plus qu'avant, un peu moins qu'avant. Et puis on peut regarder ce qui se passe dans les autres pays, et puis on découvre qu'en Espagne, y en a un peu moins. Donc, et tout d'un coup, le fait divers, on sort de la rubrique fait divers pour rentrer vraiment dans la rubrique société, ça devient quelque chose qu'on peut quantifier, qualifier, et surtout quelque chose contre lequel on peut se battre ou en tout cas s'activer.
Si on résume ce que vous dites, donc finalement un fait divers c'est un cas à l'origine isolé et souvent on peut le rassembler avec des phénomènes plus larges et plus globaux.
Oui, c'est ce qui se passe pour le... Tu donnais un exemple de fait divers du jour, un accident du travail. Bah, aujourd'hui, il y a un peu cette même démarche sur les accidents du travail en disant bah, c'est peut-être pas normal que des gens meurent au travail. C'est peut-être pas forcément quelque chose d'aléatoire et d'inévitable. Donc là aussi, on peut commencer à les compter. On peut aussi se poser la question pourquoi les médias n'en parlent pas ou en parlent dans la rubrique fait divers. Pourquoi c'est pas, ça n'apparaît pas dans d'autres pages ou d'autres sections plus noble et à partir du moment où on en fait un fait de société, on le sort de la rubrique fait divers au sens strict du terme, ça devient quelque chose de politique aussi, sur lequel on peut se positionner et s'activer.
Oui, et donc questionner le fait divers et sa place dans les médias. Donc toi, Thomas, tu as été au cœur de ça en tant que localier. Donc concrètement, en quoi consistait ton travail de journaliste dans cette rubrique fait divers et comment se déroulait la production des papiers ?
Alors, le travail d'un localier sur le fait divers est très différent du travail d'un fait diversier, comme on l'appelle dans le jargon, sur le fait divers, puisque le fait diversier, par essence, ne va faire quasiment que ça, enfin en tout cas il va traiter vraiment sur la grande majorité de son temps cela. Quand vous êtes localier dans une petite agence, comme moi je l'ai vécu par exemple à Gien, à l'époque où j'ai travaillé dans le groupe Centre France, vous êtes souvent deux à gérer une agence locale en ruralité avec un territoire assez important, parfois vous êtes seul dans certaines agences. Vous avez dans votre ordinaire vos pages de local à faire tous les jours. Donc ça veut dire sur l'actualité, le tout venant, et puis aller trouver un sujet majeur pour à chaque fois faire votre entrée de page dans votre journal du lendemain. Vous avez aussi les commandes de temps en temps de la rédaction en chef par rapport à d'autres papiers qui sortent du cadre de vos pages, c'est-à-dire qui ont une portée un peu plus départementale. Donc on va vous demander de faire un reportage spécifiquement là-dessus ou un sujet spécifique. Tout ça, ça prend déjà beaucoup de temps dans un planning, sachant que justement il faut avoir un plan B, un plan C parfois en prévision pour pouvoir continuer à remplir nos pages. Et le fait divers vient s'ajouter sur ce millefeuille, une nouvelle couche entre guillemets que l'on traite. Par exemple, si tu me demandes comment je le faisais concrètement, admettons j'ai un fait divers qui m'arrive en fin de journée à 19h, je reçois un appel, je vois passer sur les réseaux sociaux, j'ai un contact qui me fait signe qu'il y a un incendie dans telle entreprise, dans une commune de la communauté de communes dans laquelle j'exerce, eh bien c'est d'aller sur place, c'est d'aller prendre la photo, c'est d'aller discuter avec les personnes. Alors quand je dis les autorités, c'est plutôt pour le coup avec les pompiers qui sont plus à même de nous répondre sur la question. Souvent, quand on va interroger les autorités policières ou les gendarmes, on va nous renvoyer vers le parquet, le procureur. Donc c'est là-bas qu'on pourra avoir plus d'éléments lorsqu'il s'agit d'une affaire dans laquelle, par exemple, d'une affaire criminelle, d'une affaire de délit, de cambriolage ou autre. Vous rentrez ensuite dans votre local, vous rédigez votre papier. Alors d'abord pour la version web, il faut être réactif, il faut être très rapide. Et si vous êtes en fin de journée, eh bien il faut également prévoir votre version sur le print dans un petit carton qu'on vous aura dessiné un petit peu à la va-vite sur la page des faits divers avant le bouclage de votre journal. Ça peut aussi arriver d'être appelé à 1h ou 2h du matin et vous vous déplacez à 1h ou 2h du matin dans ce cas-là parce que dans une locale vous avez un téléphone de faits divers, une permanence tournante sur laquelle on peut être en lien avec des services de secours qui peuvent nous donner une information sur un grand sur un événement particulier, c'est-à-dire un gros accident, pareil, un gros incendie. Donc à 2h du matin, j'étais amené aussi à me déplacer pour pareil aller prendre la photo et aller faire le contenu sur le web. Pas sur le print évidemment, puisque le bouclage s'était déjà passé, mais voilà, un vrai travail de terrain, en même temps un vrai travail de terrain que l'on n'a pas forcément l'occasion de faire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut être réactif dans un quotidien
pour le faire. Voilà. Temporalité.
Ouais, et puis souvent.
Peut-être pour continuer sur la discussion, Marius est là, vous avez peut-être d'autres question parce que
ouais,
le temps file.
Ça varie aussi en fonction de la temporalité,
un petit peu.
C'est ce que vous disiez.
Donc, c'est ça. Chaque média a sa façon de traiter le fait divers, et donc que ce soit du point de vue de la ligne éditoriale ou de la temporalité, de quelle manière différente ces médias ils peuvent s'emparer du fait divers.
Est-ce que tu peux juste me préciser ta question ? C'est-à-dire quand tu dis sur la temporalité, s'emparer du fait divers, c'est-à-dire ?
Que ce soit un média qui soit mensuel, hebdomadaire ou quotidien, ça ne va pas être le même traitement.
C'est sûr, moi je peux te sortir que l'expérience du quotidien où c'était chaud à chaque fois, c'était chaud tout le temps, et donc il faut être réactif et tu ne peux pas laisser la place, entre guillemets, à un travail plus en profondeur et plus d'enquête. Le travail plus d'enquête peut éventuellement être fait par la suite, mais même en tant que localier, tu as du mal à trouver ce temps pour faire de l'enquête parce que tu as tous les à côté de tes pages de local à faire. Dans le cadre d'une affaire criminelle qui remonte au tribunal, qui remontait par exemple au tribunal d'Orléans, pour le coup, je laissais la main aux faits diversiers qui avaient leurs propres sources à ces endroits.
Qui étaient spécialisés.
Voilà, et qui étaient spécialisés.
Sur cette question de temporalité, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on va travailler à plus long terme pour un hebdomadaire, pour un mensuel, voire un trimestriel, on va pouvoir varier davantage les sources. Un des soucis de la pratique du fait divers en local, c'est qu'elle est très dépendante des services de police et des services de secours, avec le risque du coup d'être un peu trop proche de ces sources-là et de ne pas avoir le temps d'aller recueillir l'information auprès des concernés eux-mêmes et de creuser un petit peu pour aller au-delà de la version de la police.
Je confirme, je l'ai vécu cette frustration.
Voilà, ouais. Et pour le c'est pour ça que parfois on voit débarquer des confrères et des consoeurs de la presse nationale qui vont trouver que le fait divers est intéressant, et eux vont creuser un peu plus parce qu'ils sont pas pris par l'urgence, ils ont quelques jours pour préparer leur histoire, et là ils vont pouvoir aller voir la famille, ils vont pouvoir aller voir éventuellement les avocats, ils vont pouvoir remettre un peu tout ça dans le contexte et interroger la version qui a été reprise immédiatement parce qu'elle dépend beaucoup de la police et de la justice.
Justement, Yann Guégan, donc, tu es vice-président du CDJM. Dernièrement, donc, le CDJM a réagi au meurtre de Louise, 11 ans, disparue le 7 février dernier dans l'Essonne. Et donc, vous avez condamné plusieurs articles de presse qui ont cité le nom et l'origine supposée d'une personne interrogée. Un choix éditorial donc, qui est contraire aux chartes déontologiques, ce que vous estimez donc... dans le CDJM, dans l'article qui a été publié. Comment vous définissez donc la déontologie journalistique et comment vous la défendez au sein du CDJM ?
Alors, le travail qu'on fait au CDJM, il se base sur des chartes de déontologie. On en a trois qui nous servent de référence. Ces chartes donnent des grands principes. Mais ensuite, il faut être capable de confronter ces principes à la réalité du métier et de voir comment ça se traduit concrètement. Donc on le fait parfois via des communiqués comme celui que tu viens de citer, on le fait via des avis qui sont publiés quand on est saisi sur un acte journalistique précis. On va prendre position sur cet acte et on va dire si, selon nous, les règles de la déontologie ont été respectées ou non. Donc c'est vraiment au cas par cas, de façon très, très pratique et très directe. Et puis, on a aussi des petits guides, des recommandations, comme celle qu'on a publiée, qui s'appelle « Traitement du fait divers, préconisation ». Et dans ce guide, on va poser la question de l'identité, de la communication de l'identité des victimes ou pas.
Finalement, il y a des limites à ce qu'on peut dire.
Exactement. Alors, il y a des limites légales. Sur l'identification, il y a des limites légales. On ne peut pas, en France, donner l'identité des mineurs qui sont impliqués dans une affaire judiciaire, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que victime. Donc ça, c'est une des limites légales. L'autre, c'est les personnes qui sont victimes d'agressions ou d'atteintes sexuelles, où là, on ne peut en parler, on peut donner leur identité que si elles ont donné leur accord au préalable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à part ces deux cas-là qui sont dans la loi, tout le reste va dépendre des choix qui sont faits par les journaux. Et on a dans notre petit guide, bon c'est pas très long, hein, ça fait quelques pages, mais enfin sur l'identité il y a quand même beaucoup de critères à prendre en compte et beaucoup de prudence aussi à avoir. Donc quand il y a une course à l'info et qu'on a des médias qui vont balancer le nom de quelqu'un qui n'est qu'un suspect à ce moment-là, Alors parfois c'est juste prénom et initial du nom, mais parfois aussi on a vu prénom plus nom. Et ça, on sait que parfois ça peut rester sur Internet, ça peut être archivé et conservé, ça peut hanter la vie de la personne, surtout quand derrière elle est innocentée ou la police
d'autant plus avec,
cherche un autre suspect.
Avec Internet et les réseaux sociaux.
Exactement. Ouais. Donc y a une question de responsabilité qui est importante. C'est pour ça qu'on a réagi en disant, attendez, n'oubliez pas quand même que le journalisme s'exerce dans un cadre qui est celui de la déontologie, et sur l'identité des victimes, c'est une question sensible, l'identité des victimes ou des auteurs présumés. C'est une question sensible sur laquelle les médias se doivent d'avoir des règles. C'est le cas très souvent en PQR, il y a des chartes, où il y a un encadrement, il y a des règles qu'on s'implique en interne. Et du coup, il faut avoir cette réflexion-là. On peut pas se... Moi, j'aime pas le journalisme de la terre brûlée. J'aime pas le journalisme qui déboule sur un sujet, considère qu'on peut tout dire, tout faire, et puis ensuite qui repart pour parler d'autre chose, et derrière, il y a des vies qui sont affectées.
Oui, donc il y a cette question de l'identité, que ce soit des victimes, des auteurs d'infractions, tout ça, mais il y a aussi la question des territoires qui se posent, parce que, Roland Barthes, il le disait, le fait divers, il peut être considéré comme le fourre-tout de l'information, et donc ces faits divers, ils permettent parfois de combler les dernières pages d'un journal, etc., à tel point que parfois, les noms de certaines villes peuvent être rattachés à... certains faits
qui
s'y sont passés, exactement, ou bien ça peut être aussi une vision plus péjorative de ce territoire. Donc en quoi le fait divers, il peut créer justement des stéréotypes locaux sur des territoires précis pour vous?
J'ai l'impression que tu as un peu répondu à la question, quelque part. Et là, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui sort aussi un petit peu de notre champ de compétences, parce que j'ai envie de dire, si y a l'affaire des viols de Mazan, c'est pas de ma faute si ça s'est passé à Mazan. On est bien obligé de rappeler quand même, c'est le fameux 5W quand on fait un sujet. Et dans les 5W, il y a le où. Donc on est un peu obligé de répondre à la question du où. Je ne sais pas après dans quelle proportion, moi, en tant que journaliste, je peux empêcher... c'est un peu comme l'histoire de Vichy, par exemple. Le gouvernement de Vichy, moi, pour avoir été étudiant en journalisme là-bas, je sais que le maire, qui est toujours présent... Monsieur Aguilera refuse de parler du gouvernement de Vichy et veut qu'on l'appelle le régime de l'État français, par exemple.
Bonne chance.
Bonne chance.
Est-ce que peut-être vous avez une dernière question en très très bref à poser?
C'était un petit peu. Alors je relancerai sur cette question. Est-ce qu'il y a un risque finalement, parce que les viols de Mazan, évidemment qu'il faut en parler, je pense que ça fait l'unanimité, mais est-ce qu'il y a un risque dans le traitement d'une information locale qui viendrait être traitée simplement parce qu'elle permet de combler un trou dans un journal, et donc venir stéréotyper, renforcer un stigmate local.
Là aussi, les chartes sont intéressantes, notamment la charte de la Fédération internationale des journalistes, puisqu'elle invite les journalistes à ne pas favoriser les amalgames ou les préjugés, et à être prudent là-dessus. Donc ça peut concerner l'origine ethnique des auteurs ou des auteurs présumés de délits ou de crimes. Ça peut poser un problème si vous... ça peut poser un problème. Ça pose un problème si vous mentionnez l'origine ethnique d'un délinquant ou d'un délinquant présumé uniquement s'il est arabe ou s'il est noir. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, s'il s'agit d'un blanc, par exemple. C'est tout bête, mais si vous faites ça chaque jour, chaque semaine dans votre canard, en revanche, si vous êtes dans une enquête ou dans un travail au long, vous allez vous intéresser à la personnalité de la victime ou de l'auteur, et donc vous allez vous intéresser à son parcours personnel, à sa famille et à son origine, effectivement, la question de la couleur de sa peau peut être une information qui peut être intéressante. Vous voyez, ça peut être subtil, et c'est pour ça qu'il faut aussi revenir des fois aux chartes, et à se dire, je vais pas le mettre, je vais pas dire que la couleur de la peau de cette personne, parce que c'est pas une information intéressante, et je le ferai pas s'il s'agissait d'un blanc.
Et c'est un très beau mot de conclusion pour cette interview, de revenir justement aux chartes, à leur importance, surtout pour le journalisme de faits divers. Donc merci à Yann Guégan et à Thomas Deray pour leur interview.
Je rappelle juste qu'il y a une charte de Centre-France qui a été faite en 2020 justement sur les faits divers, et qu'elle est lisible en ligne aussi pour nos lecteurs.
Et on va passer tout de suite à une pause musicale. On s'écoute Petit Frère de IAM.
Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche Neige et les sept nains. Maintenant les nains on giclait Blanche Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. De fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames, dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
On vient de s'écouter Petit frère de IAM, et comme la chanson nous le dit, n'essayons pas tous d'être journalistes avant l'heure. Alors restons connectés sur Radio Campus pour en apprendre plus sur le métier de journalisme. Nous sommes toujours en direct des Assises de journalisme de Tours. Le thème de cette année sont les faits divers. On va d'ailleurs se pencher ensemble sur la question: est-ce que les faits divers fascinent-ils toujours et encore, et pourquoi surtout? Pour répondre à cette question, on reçoit Patricia Touranchaud, journaliste, autrice et réalisatrice. Bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer l'interview, on écoute tout de suite le micro-trottoir de Simon de Radio Campus Rouen, qui est allé à la rencontre de Fabien, d'Apolline et de Chloé, deux étudiants en droit. Pour commencer, on écoute Fabien, qui n'est pas très adepte des faits divers, mais qui préfère les true crime.
Que de faits divers. Lire les faits divers dans les journaux, ça ne m'intéresse pas trop. Tandis que d'avoir des histoires un peu scénarisées souvent, c'est beaucoup plus intéressant. Ou des enquêtes journalistiques comme les livres 10-18 Society True Crime, qui sont hyper intéressants et qui sont des enquêtes de fond, plutôt que des articles sur « Monsieur a tué un tel dans le fin fond de la France ». Les true crime, que ce soit en émission de télé ou en livre, ou je suis abonné à Society, donc il y en a beaucoup aussi, c'est glauque parfois aussi. C'est vraiment glauque. Mais c'est plus de fond, plutôt que de m'intéresser à simplement un fait divers en lui-même. Là, je sais pas, 100 pages, on a toute une analyse qui est beaucoup plus intéressante et qui va beaucoup plus loin que juste un fait divers comme ça.
Bon, je pense qu'il y a aussi, comme on est en droit pénal, une sorte de curiosité un peu morbide. On aime bien lire tout ce qui est sur les meurtres, trafic de stupéfiants. En tout cas, moi, je sais que c'est une curiosité morbide de ma part.
Je suis assez d'accord là-dessus. Moi, j'aime bien regarder des vidéos YouTube ou ce genre de choses-là par rapport à ça. Et même les émissions qui sont dédiées aux faits divers, j'aime beaucoup, mais je pense que c'est vraiment de la curiosité morbide. Et puis comme ça a un lien avec nos études, disons, on voit plus le côté concret, du coup.
Justement, j'ai lu dans le journal récemment qu'il y avait la pratique du doll set qui s'était développée, donc qui est le fait de c'est un fétiche, je crois, qui est lié au cannibalisme. C'est très précis, hein. Mais du coup, il y a des faits divers en lien dans la région, et... Bah, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est des gens qui ont une curiosité de base sur les bandes dessinées et qui développent ça sur leur fétiche perso. Et c'est des faits divers très particuliers et très croustillants.
Bah, y a le procès de Joël Le Scouarnec, qui je pense est assez central aujourd'hui. On n'en entend pas beaucoup parler. Puis ça permet, comme c'est quelqu'un qui parle aussi et qui admet ce qu'il a fait, c'est très intéressant d'un point de vue aussi psychologique, tout simplement. Puis bah, plus récemment, dans l'actualité vraiment très locale, la mort du jeune homme au Sanitas, qui, enfin, moi, ça m'a en tout cas particulièrement touchée du fait que c'était quand même un jeune garçon. Et je trouvais ça, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on est tout de suite parti sur le côté stup, c'est des trafiquants, etc. Finalement, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et je trouve que c'est aussi important de montrer que tous les jeunes de quartier ne se font pas tuer juste à cause du trafic de stup et que malheureusement, il y a des drames qui arrivent partout, quoi. Moi, ça me dérange particulièrement, ça m'agace même beaucoup parce qu'ils utilisent ça à leur fin personnelle pour leurs intérêts, alors que derrière, il y a des familles qui sont endeuillées, tout simplement, et on pense pas à elles. En fait, on met ça sur des plateaux télé et on prend pas du tout en compte les victimes, notamment pour les trucs d'OQTF ou ce genre de choses-là. C'est des drames, par exemple, c'est Philippine, je crois, c'est ça, ouais, qui s'appelait la jeune fille. Ça a été vachement récupéré et tout, et j'ai trouvé ça mais dramatique parce que bah, y a une jeune fille qui est morte. Et moi, je trouve que c'est pas la place de la politique, en tout cas, ça n'a pas lieu d'être sur des plateaux télé, de discuter de ça autour de la politique.
Je trouve que ça dépend quelle récupération est faite par les politiciens. Notamment, nous, on a étudié le cas de l'irresponsabilité pénale quand on a consommé des stupéfiants. Donc, notamment l'affaire d'Halimi, où un homme avait tué du coup, sa voisine de confession juive. Comme il était sous emprise de stupéfiants et il avait des troubles mentaux, on n'a pas reconnu sa responsabilité. Donc ça avait fait énormément de débats, même au niveau du Grand Rabbin de France, au niveau de Macron. Est-ce qu'on reconnaît une responsabilité ou pas? Et parfois, le fait d'avoir des politiciens qui en parlent, ça permet d'ouvrir des débats juridiques très intéressants et qui font évoluer la loi. Donc la récupération politique, oui, mais pas toujours.
Et merci beaucoup Simon qui a fait ce micro-trottoir de Radio Campus Rouen. Je passe le micro à AC de Radio Campus Montpellier et Samuel de Radio Campus Tours pour l'interview.
Merci. Et merci. Bonjour Patricia, merci. Bonjour. D'être avec nous aujourd'hui en direct des Assises du journalisme à Tours avec le réseau Radio Campus France.
Bonjour Patricia, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce qu'on vient d'écouter?
Il y avait plein de thèmes dans le thème. Alors la première réaction, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence entre le fait divers et le true crime. C'est une autre manière de le dire anglaise, mais c'est la même chose. Et je pense que les étudiants qui parlaient, ou les jeunes qui parlaient, en fait, ils confondent le fait divers traité dans le journal local et puis le true crime, comme ils disent, qu'ils vont voir en série sur Netflix ou ailleurs. Mais voilà, ce ne sont que des faits divers et ce sont tous des faits divers. Et après, tout dépend de la manière dont on les traite. Et moi, par exemple, quand je travaillais à Libération, j'essayais de les creuser. Alors évidemment, je les traitais en actu, donc en feuilletonnant très souvent, mais en faisant attention de parfois faire un point, faire une double page de récapitulatif de toute cette histoire, et en les creusant. C'est pas parce qu'on travaille dans un quotidien qu'on va pas creuser un fait divers, mais maintenant que je suis plutôt auteur et co-réalisatrice, bien évidemment, je les creuse et je les approfondis encore plus, ce qui a l'air de plaire à certains des garçons du radio-trottoir. Et après, sur les victimes, il faut toujours penser aux gens qui sont derrière le fait divers. C'est une matière profondément humaine, et c'est d'ailleurs ce qui me passionne dans cette rubrique-là. Mais il faut faire attention tout le temps, même aux suspects, même aux parents du criminel, même, les victimes, bien évidemment, mais voilà, il faut avoir une espèce de tact. Et en revanche, d'en parler, et d'en parler beaucoup, c'est notre métier. Je veux dire, on est là pour informer. Et les faits divers sont une part importante de la société. Ce sont souvent des faits de société. Ceux qui parlent de Le Scouarnec, c'est quand même le plus grand pédophile criminel en France. Le mec, je crois qu'il y a 199 jeunes victimes, des enfants. Il était médecin. Ça pose aussi le problème d'ailleurs de ce type-là avait été arrêté déjà pour détention d'images pédopornographiques. Et néanmoins, il avait été embauché dans une clinique à Jonzac, où il a pu continuer en fait ses exactions et à violer et agresser sexuellement des enfants, ce qui est dingue. Mais voilà, c'est un peu en vrac, hein.
Mais c'est déjà très bien dit parce que bon, vous avez réagi tout comme les personnes à qui on avait posé les questions. Et il y avait aussi cette question du fait divers au fait politique. C'est là-dessus qu'ils ils ont terminé. Mais comme vous l'avez dit, ça reste aussi un fait de société, un fait divers. Quoi.
Mais parfois, sous Sarkozy, j'ai vraiment déploré qu'il y ait une récupération politique sans arrêt des gros faits divers, comme Laetitia d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un livre formidable du sociologue Yvan Jablanka. Mais Laetitia, en fait, après la mort de Laetitia, Sarkozy, à chaque gros fait divers comme ça qui suscitait l'émotion dans la population, il empilait, il mettait une nouvelle loi. Il voulait créer une nouvelle loi, et sans arrêt des lois plus dures. Et parfois, il y avait déjà l'arsenal juridique pour lutter contre ça. Et il rajoutait une loi. Enfin, ça, c'est pas bien. Mm-hmm. Je suis pas d'accord.
Bah, on va, de toute façon, c'est le sujet de notre émission juste après. On en reparlera avec d'autres invités. On va revenir un petit peu, du coup, sur ce fait divers en général, et puis également sur la table ronde un petit peu que vous avez animée ce matin, puisqu'effectivement, vous avez animé une table ronde intitulé les nouveaux formats autour du fait divers lors de cette 18e édition des Assises du journalisme, et vous étiez accompagné par Vincent Vatigem, journaliste au service police-justice de BFM TV, et Justine Reix, du coup journaliste indépendante et réalisatrice de vidéos notamment sur YouTube, mais pas que.
Nous avons pu l'interroger sur l'évolution du traitement médiatique des faits divers en France. On écoute sa réponse.
Oui, évidemment. Je pense que ces dernières années, on a vu une accélération au niveau des productions de contenu, que ce soit sur les plateformes, sur YouTube, sur les médias traditionnels, traitement, on va dire, de faits divers. Je pense qu'il y a quelques années, on était plutôt sur on a un procès, on va le couvrir, on va raconter un fait divers qui vient de se passer. Alors que maintenant, on va aussi faire des sujets beaucoup plus au long cours, où on va évidemment couvrir des procès qui durent plus longtemps, parce que c'est des procès d'envergure. Et puis, on a aussi des moments où on va reprendre un fait divers qui a marqué les Français ou marqué des gens à l'international, et on va le vraiment détricoter pour le raconter de manière un petit peu narrative, avec un vrai storytelling. Et ça, j'ai l'impression qu'on le voyait beaucoup moins avant.
Est-ce que vous avez la même réponse par rapport à ce qu'elle a dit ?
Ouais, franchement, elle a raison, Justine. C'est-à-dire qu'il y a une démultiplication de toutes les chaînes de la TNT, des plateformes, Netflix, HBO, etc. Et ça, du coup, les podcasts, un développement énorme aussi des podcasts. Et moi, en tant que fait diversière de profession, j'ai remarqué les demandes sont énormes, et pas seulement en bouquin. Aussi, moi, on m'a demandé de co-réaliser la série de Netflix sur Grégory, et ce qui était génial, parce que on déplie vraiment une histoire de A à Z. Ça permet vraiment de la développer sur... nous, on a fait 5 heures, alors qu'au départ, Netflix nous demandait 5 fois 40 minutes. Finalement, on a fait 5 fois 60 minutes, parce que ça tenait la route, et qu'ils ont trouvé que tant que c'était fort... on pouvait y aller, quoi. Il y a pas de. C'est pas comme dans une télé avec une case, 90 minutes. Ou... Là, on a fait 5 heures à l'aise. Et c'est une autre façon de raconter l'histoire. Mais moi, ça me passionne, justement. Là, parce que ce soit dans un livre, un podcast ou une série documentaire, moi, ça me permet vraiment d'aller au fond des choses et de pouvoir faire sortir des témoignages ou des archives. Qui sont un peu inédites, qui sont un regard global sur une affaire que les gens ont l'impression de connaître. Genre l'affaire Grégory, tout le monde dit « ouais, bon, on sait, ouais, on connaît ». Tu vois, et finalement, non, ils ne connaissent pas tant que ça.
Donc pour vous, justement, cet avènement des réseaux sociaux, des nouveaux médiums d'information, et puis également aussi du mode de consommation, finalement, des informations par peut-être les nouvelles générations, est-ce que pour vous, du coup, c'est bénéfique finalement aux faits divers ou pas d'avoir cette quantité de plateformes et de médiums sur lesquels travailler, ou de pouvoir raconter cette histoire, mais différemment?
Je ne peux pas dire que ce soit archi-bénéfique, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il faut faire vraiment le tri. Et donc, c'est à nous, journalistes ou spécialistes de ces faits divers, de choisir là où on va pouvoir bien le faire. Il y a même sur la TNT, il y a des tas d'émissions, là, enquête criminelle, tout ça, des trucs sur Énergie 12, des trucs, honnêtement, qui valent rien, qui jouent sur le crapoteux, qui jouent sur le gore, et qui, d'ailleurs, répondent à certains... un certain attrait malsain de certaines personnes pour les faits divers, tu vois. Et ça joue là-dessus. Et c'est caricatural. Par exemple, la victime, c'est toujours une noix blanche. Le criminel, c'est toujours le bourreau. Enfin, c'est pas bien. Donc, il faut faire la part des choses dans tous ces médiums et dans tous ces médias. Et choisir quand on peut, bah les supports sérieux où on va pouvoir faire un travail sérieux et qui ne joue pas sur les bas instincts des gens.
D'accord.
Parce que autant on doit informer, mais autant on ne doit pas servir les voyeurs et tout. Il y a des détails dans des faits divers qu'on gomme de nous-mêmes, qu'on ne va pas écrire ni montrer.
Mais vous en parliez justement lors de la conférence ce matin de cette accroche, puis même juste de l'éthique en tant que journaliste, de pas forcément aborder certaines choses et d'omettre certains détails pour pas justement glorifier un petit peu aussi le crime et puis les tueurs, quoi.
Oui. Alors ça, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que sur les crimes eux-mêmes, notamment les crimes sexuels, il faut en même temps raconter suffisamment pour montrer l'horreur du mec qui a commis ça. Et en même temps, édulcorer certains détails qui sont trop atroces. Mais la deuxième chose, c'est dans notre façon de raconter, il faut trouver un angle pour que ce ne soit pas le tueur en série qui soit le héros. Et l'exemple que j'ai donné ce matin sur mon livre Guy-Georges Latraque, j'en ai tiré un unitaire de 92 minutes pour Netflix qui s'appelle « Les femmes et l'assassin ». Et en fait, c'est l'affaire Guy Georges, mais vu à travers le regard de quatre femmes, et après ils m'ont rajouté dedans la journaliste, mais il y a quatre femmes qui sont la commissaire de police qui a traqué Guy Georges, une mère de victime qui l'a aussi recherché à sa façon et essayé de le comprendre par la suite, l'avocate de la défense de Guy Georges et une avocate de victime au procès qui l'a fait craquer. Et de voir et de raconter cette histoire à travers les témoignages de ces femmes-là, c'est une manière... Voilà, c'est elles les héroïnes, ce n'est pas Guy Georges le héros, c'est complètement différent, mais ça c'est important, il faut à chaque fois trouver un angle pour que ce soit pas terre à terre, que ça donne pas la part belle au tueur, même si on va raconter son enfance, son parcours, ça n'empêche pas, mais il faut quand même essayer d'avoir un certain regard.
Vous disiez que c'était une chance de passer de journaliste à journaliste multi-support. Qu'est-ce qui vous anime dans ces nouveaux formats ?
Mais moi, je trouve, à partir du moment où je tiens une bonne histoire, des bons témoins et des enquêteurs, etc., de la décliner sur plusieurs modes de narration, moi, je trouve ça génial. Et c'est vrai qu'on n'écrit pas une série Netflix, comme j'ai écrit le livre sur Grégory, c'est pas pareil. Le livre est à la fois plus complet, et en même temps, je veux dire, la série, elle montre, enfin, je veux dire, le pouvoir de l'image est incroyable, et de pouvoir jongler entre les images, les témoignages. Et ce que je disais ce matin, c'est qu'on nous demande, pour une série Netflix, d'écrire déjà les séquenciers avant de commencer à tourner. Ça veut dire d'avoir déjà interviewé, pré-interviewé les gens, sans caméra, et ensuite d'écrire les séquenciers, une colonne son, une colonne image. Qu'est-ce que tu mets sur ton premier épisode, deuxième, troisième, tout le découpage. Et il faut que ça, ce soit hyper fin et validé par Netflix avant de commencer à tourner. Et même si les gens, si tu veux, après, une fois qu'ils vont être devant la caméra, ils ne vont pas dire exactement la même manière ce qu'ils m'avaient dit comme ça quand je prenais des notes. Il n'empêche que moi, ça me fait un canevas et que voilà, le diffuseur, il valide ou il ne valide pas sur la base de ça.
Et moi, je voudrais revenir un petit peu sur justement ce que vous disiez avant, parce qu'il y a un peu une sorte de fascination pour les faits divers de manière générale, et on l'a bien entendu lors du micro-trottoir. Ouais. Les gens sont toujours fascinés par les crimes un peu et ce genre de drame. Est-ce que, selon vous, la retranscription de ces événements au travers des nouveaux formats sont un peu l'avenir du fait divers en lui-même par rapport à ce qu'il était avant, juste en presse écrite ou en PQR ?
Ben oui, parce que il y a un attrait, je sais pas si c'est une fascination, mais il y a un attrait énorme des gens et de tous âges. Donc, si tu veux, le fait d'avoir des supports qui soient plus accessibles aux jeunes, Tu vois, moi, mes enfants, ils ont pas lu mon bouquin sur Grégory, ils s'en contrefoutent. Par contre, la série, ils l'ont vu 4 fois. Tu vois, c'est ça la différence. Donc, si on veut informer, toucher plein de publics différents, bah, on se met à plein de supports. Par contre, moi, je me mettrai pas à tweeter des, tu vois, le live tweet de procès, c'est pas mon truc. Mais voilà, moi, je fais autre chose.
Et dernière petite question, vous êtes actuellement en tournée pour la promotion de votre livre rubrique Faits divers. Quel est l'intérêt économique dans cette démarche de relancer le fait divers au grand public?
L'intérêt économique? Non, moi, ce que je voulais faire, c'était, si tu veux, pour des livres ou des séries ou un podcast, je vais choisir une affaire que je vais creuser qui mérite un livre. Mais il y a plein d'autres histoires que j'ai traitées, tu vois, qui me plaisent moi et qui, je pense, peuvent montrer la diversité des faits divers à mon public. Et donc, j'en ai choisi 69, mais dans des styles différents. Tu vois, il y a 14 thématiques, en fait. Donc, tu as les crimes au féminin, tu as les tueurs en série, tu as les grandes évasions, les bandits de grand chemin, les escrocs, les espions, la morgue, les djihadistes. Tu vois, c'est très, très varié, en fait. Et voilà, en fait, moi, les premiers lecteurs, tu vois, qui le lisent, c'était un peu comme... j'avais fait un livre sur le 36 Quai des Orfèvres où ça se lit un peu comme des nouvelles. Et c'était 25 histoires différentes. Mmh. Bah là, tu en as 69. Et les gens, ils piochent là où ils veulent.
Ils veulent et...
Voilà. C'est un voyage dans le crime, tu vois, dans le monde du crime, tel que je l'ai connu et que je l'ai vécu, tu vois. Ni tout noir, ni tout rose.
Eh ben, merci beaucoup, Patricia.
Merci à vous.
Tourangeau, pour ton éclairage sur ce que les faits divers fascinent-ils encore. On va se faire encore une pause musicale et on écoute C'est pour ceux de Mafia Cafri.
Merci à vous, vous êtes super.
Mais merci. C'était vraiment chouette.
Quand tu commences à palper, il y a des règles à apprendre si tu veux continuer. Bon, on en avait parlé un peu. Tu dois apprendre à faire la différence entre les armes et le beurre. Les armes, qu'est-ce que c'est? Les armes, c'est ta seule vraie richesse. C'est des valeurs boursières. Des œuvres d'art, tu vois, des conneries qui se monnaient et qui grimpent en valeur. C'est quoi le beurre? Une caisse, des fringues, une montre, toute cette gamme de merde que t'achètes et qui vaut plus rien une fois que tu l'as. Cherche pas ailleurs, mec. Des armes et du beurre. Point barre.
Hey, Jesse.
Ok, Manu.
Ouais. Tiens, passe-moi un billet.
Un Pascal, tu veux quoi? 200, 300.
Qu'est-ce que tu fais avec ça encore?
Des florins, tu veux quoi?
C'est fini maintenant, j'ai les 100, 200, 500 euros les gros.
Ouais, c'est de l'oseille, c'est
500
pareil.
500 euros.
C'est pareil mon frère.
Ouais. Bon, quel pareil
façon, on y va.
HLM, prix d'assaut, armes de guerre, réaction violente, branchée au scanner, machine à soudoine volant. Les gros coups, le banditisme, dit au ministre qu'on encule à part la génération d'un monde sinistre. Les mômes qui font la manche en provenance de Roumanie, les toxico-agiles sont le plus marre des mamies, des huissiers qui mettent à genoux des familles. Dans la vie, tout est rally, Michael Blanc qui est au cacho à Bali. On s'organise pour un bibi, des barrières remplies de bastos, rose comme ton pouce, voilà l'italienne, faut qu'on brasse tous. Les passeurs sodomisent les compagnies aériennes, rendez-vous dans les plus grands gastos des rues parisiennes. On est des clients, du haut de la chaîne alimentaire, vitriotruant pas les couilles du bafard d'être animateur ou gratteur à la mairie. Sur les braquons, en trio, on veut la mairie. On monte pas sur les coups, on clie, on fuck terrible.
Ça va du chantier à l'usine, du centre-ville Amazon, des mythomanes, des crapules, tous l'oseille au redemande. Ça va de mon cerveau à mon stylo, comme des battements de cœur, des bruits de pas dans le noir pour une paye de braqueur. Ça chuchote, les tarots grimpent doucement. Un polo se passe en coup de vent, la somme dans son coup de vent. Ma rue, une dangereuse toile, chien de tout poil. Accroché à de l'argent, pour nous c'est urgent. Un centime, c'est la haine. Qui domine dans mon domaine, un bolide dans une vitrine. Léon, la loi des temps modernes. Se chauffe le sang à l'alcool, dehors c'est mort comme le disco. Se réunissent mes consorts autour du son de la conso. Dans le secret de la rue, ça sent le brûler l'incendie. Au plus chanceux, le salut. Au départ top pour le podium, gros gère le stock. Le slogan c'est prendre des risques et surtout tiens le choc.
Quand on arrive, de toute façon, y'a le gros son. Voilà l'équipe mon gros, envoie les gros sons.
En espèce,
pas de chèque, pas trop, ni tête. Envoie la maille, envoie l'oseille car on est beaucoup. Eh, hey, garçon, y'a le gros son. Voilà l'équipe mon gros, envoie les gros sons.
En espèce,
pas de chèque, pas trop, ni tête. Envoie la maille, envoie l'oseille car on est beaucoup.
Quand je bouille mes poches, je me sens vide de quoi. De fraîche et toi, un vide comme moi. Tu rêves souvent d'oseille. Pourtant mon grand dans les halls, tout le monde en part. Du roulement au cadre, aux gendarmes qui te foutent en tôle. Ça s'affole jusqu'à l'Elysée en haut lieu. Qui nous balance des patrouilles armées pour calmer nos banlieues qui grattent, sur grattent, même craqués. par la batte qui déboîte dans nos épisodes masqués ou casqués. Pour celui qu'a j'ai, des fois embusqué, je planifie mes projets.
Assis en bas des blocs où les billets craquent, où tu planques tes thunes poteaux, où tu les claques. À 16 ans, c'est déclic, tu sens plus les claques. T'allumes ta première club, tu cours devant la
bac. Les locks, ça tourne en rond, car pour certains, dans l'ordi, n'ont pas un rond. Et tôt le matin, passe derrière le comptoir, quitte à se casser les reins. De ceux qui font leur compte le soir, du détail, du butin, du petit larcin. Au gros coup organisé, si tu veux un tuyau, fais ta route sans associer. Les mecs sont habitués à crosser, au gros sein, au procès, à pioncer dans les endroits bizarres, à bosser, à se frotter avec les plus gros, les plus pros, les gros nerveux sous co qui au moindre faut pas ta rose. Ceux qui se déplacent quand t'as cause, qu'on aura rien à foutre des conséquences et de la cause.
On vient de s'écouter Mafia Kafri, c'est pour ce morceau lancé par Imka et Rof, devenu un hymne du rap français. Vous êtes toujours sur Radio Campus et on est en direct des assises du journalisme de Tours. Pour cette troisième partie, on va se demander comment passe-t-on du fait divers au fait politique. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, Marie de Radio Campus Tours va nous faire un point sur l'affaire Pellico. Je te laisse la parole, Marie.
Oui, bonjour à tous. Alors, on est très content avec Radio Campus Tours d'accueillir le réseau Radio Campus France. Lors de la soirée d'ouverture de ces assises, ce lundi 10 mars, quelques rappels ont été faits. L'écrasante majorité des Français déclare être très intéressée, si ce n'est passionnée, par les faits divers. Et cette affirmation, elle sera probablement répétée de nombreuses fois au cours de cette semaine. Si les faits divers fascinent autant, c'est parce qu'ils sont, par essence, des faits de société. Ils touchent tout le monde, nous interpellent dans nos quotidiens et choquent souvent par leur gravité. Ils concernent toutes les sphères sociales, tous les âges et forcent à se demander « et si ça m'arrivait à moi ?» Mais alors, à quel moment le fait divers se transforme en fait politique ? C'est là que le procès Pellico intervient. Il est assez difficile de faire une impasse dessus, puisque la soirée d'ouverture donc des assises y a été dédiée également. La classe politique ne s'est pas plus prononcée que ça sur cette affaire. Ce sont surtout les citoyens qui se sont emparés du sujet et qui, par leur engagement, ont donné une portée politique à ce fait divers. Je vous invite à vous rappeler notamment les images des femmes attendant Gisèle Pellico devant le tribunal et qui lui faisaient une aide d'honneur à la fin des audiences avec beaucoup d'émotion et d'admiration. Elle est devenue malgré elle le visage de cette lutte contre les violences sexuelles et leur révoltante banalité, rappelant plus que jamais que la honte doit changer de camp. Et si cela a été possible, c'est parce que le procès ne s'est pas déroulé en huis clos, comme les autres affaires de viol traitées quotidiennement dans les tribunaux, et ça a donc permis une médiatisation de grande ampleur. Maître Zavaro, l'avocate de Dominique Pellico, l'a rappelé, les 49 autres accusés qui étaient jugés avaient pour dénominateur commun d'avoir connu une enfance difficile, violente, instable, et avec un père qui pouvait se révéler abusif. Cette affaire, elle invite donc à une grande conversation collective sur le traitement à la source des violences sexuelles. Car punir le viol, c'est une chose, et je ne m'attarderai pas sur le manque de condamnation, mais il faut surtout en traiter la cause avec de l'éducation au sein des familles et un accompagnement psychologique, ce qui permettrait de toucher progressivement l'intimité des foyers, où se situe le cœur des violences, mais aussi où il est le plus difficile de s'introduire. L'ampleur de l'affaire et la diversité sociale des accusés a rappelé que les VSS étaient partout et a été une véritable onde de choc. Et c'est ça qui l'a fait devenir assez instantanément un fait politique. Je redonne donc la main à Antonin et aux personnes présentes autour de ce plateau.
Merci Marie pour cet éclairage sur l'affaire Pellico. Et on enchaîne pour notre dernière interview de l'émission. Je profite pour remercier toute l'équipe de Radio Campus France pour l'organisation de l'émission. On remercie également Radio Campus Tours pour leur accueil et bien sûr toutes les Radio Campus qui diffusent notre émission en direct. Donc on est toujours aux assises du journalisme de Tours et on reçoit sur le plateau Emmanuelle Dancourt, présidente hashtag de l'association MeTooMedia, et Florent Pommier, vice-président de MeTooMedia. C'est une association MeTooMedia qui est créée en 2021 suite à l'affaire Patrick Poivre d'Arvaux. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et on reçoit également Isabelle Borde, journaliste pigiste et chroniqueuse pour Arrêt sur Image. Bonjour.
Bonjour.
Et je passe le micro à Maïwenn et Natacha de Radio Campus Paris et Radio Campus Brest pour l'interview.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Dans quelle mesure les mouvements comme MeToo et d'autres affaires comme PTDA ou le procès Mazan ont-ils contribué, selon vous, à transformer des faits divers en débats politiques? Et quelles en sont les conséquences concrètes sur les lois et les politiques publiques?
Alors, c'est pas peut-être moi la plus militante féministe du groupe, quoique. Mais je pense que c'est aussi la prise de parole des féministes dans ces moments-là qui ont empêché les journalistes de se contenter de faire un suivi comme un fait divers ordinaire, même s'il était répété. Et, voilà. Et bien sûr, la répétition du fait fait que ça prend un sens social qui saute aux yeux. Là, ça commence à être difficile de nier qu'il y a un problème sociétal autour du viol et... Ouais. Avant même d'employer les mots de domination masculine et de culture du viol, etc.
Les violences sexistes et sexuelles sont 6 fois plus traitées par les médias français qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années. Donc ça va dans le bon sens. Moi, je fais partie de l'affaire PPDA. Je suis victime dans cette affaire-là, puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, MeToo Media est né de cette affaire-là. C'est principalement des journalistes qui étaient dans la première enquête préliminaire. Et on s'est dit, si nous, on ne renverse pas le MeToo, nous qui sommes à la fois victimes et journalistes, mais qui va le faire? Bon. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas réussi à renverser le MeToo, mais on a quand même réussi à pas mal d'élargir en France. Et après, on a dézoomé de cette affaire-là pour en lancer plein d'autres. L'affaire Bourdin, l'affaire Plaza qui a été lancée avec Mediapart, toute l'affaire Énergie aussi. Soit on suit les victimes, soit on a lancé certaines affaires. L'affaire de la maîtrise des Hauts-de-Seine, etc. Et tout un tas d'affaires que vous ne verrez pas dans les médias puisqu'elles ne sont pas... dites médiatisables, mais effectivement il y a quelque chose qui s'est desserré si on regarde le journalisme français, hein, qui s'est desserré sur ces affaires-là. Et merci de dire que c'est pas un fait divers, mais que c'est un fait de société, parce que c'est exactement ça. Ça embarque toute la société. À partir du moment où une femme sur deux est concernée en France, on a toutes subi, ne serait-ce qu'au moins une sale blague sexiste, un outrage sexiste, du harcèlement, une agression, un viol, ça embarque tout le monde.
Mais non seulement c'est pas un fait divers à traiter comme tel dans un bout de journal, mais c'est un fait de société dans la mesure où ça a des conséquences bien au-delà du monde policier, du monde judiciaire. Ça a des conséquences sociales, ça a des conséquences financières, économiques, psychologiques. On ne peut plus traiter les violences sexuelles comme un fait divers, comme ça, dans une rubrique consacrée aux faits divers. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure. Et des journalistes américains et canadiens ici, il n'y a pas dans le monde anglo-saxon ce type-là de journalisme fait divers.
Ni chez les Allemands.
Ça n'existe pas, ni chez les Allemands. Ils ne comprennent pas ce terme. Pour eux, c'est totalement décalé. Nous sommes décalés. Le journaliste français parlant de fait divers, à mon avis, il faut l'enterrer. Ce terme, point.
Et pour répondre à la question politique, parce qu'on n'a pas répondu sur la question politique, alors ils sont merveilleux, les politiques. Ils passent leur temps à se tirer des balles dans le pied. Ils se sont littéralement saisis. D'abord, forcément, il y a eu aussi beaucoup de MeToo en politique, hein, l'affaire Abad, l'affaire Bayou, l'affaire Quatennens, etc. Mais surtout, on a un président de la République qui a le chic pour être à contre-courant de ce mouvement MeToo, qui va nous dire, bah, écoutez, moi j'ai parlé à Gérald les yeux dans les yeux, j'ai parlé à Nicolas les yeux dans les yeux, il a parlé à beaucoup de gens les yeux dans les yeux, il a eu Gérard au téléphone aussi, et qui systématiquement...
Depardieu, Hulot, enfin, derrière les noms de famille, bien sûr.
Et qui a fait cette œuvre grandiose, qui marquera son double quinquennat, d'avoir soutenu Depardieu en décembre 2023 en direct à la télévision. D'où le fait que MeToo Media en ait fait une lettre ouverte au président de la République dans le journal Le Monde, qui a été signée par plus de 7000 personnes. On disait, Monsieur le Président, vous validez au plus haut sommet de l'État la culture du viol. Et donc, le viol, à la base, avant même que les politiques s'en emparent, est un sujet politique et pas du tout un sujet dans l'intimité des alcôves. Non.
Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Justement, vous avez parlé du fait de ne pas traiter ces cas comme des faits divers. Et j'avais une question pour vous en tant que journaliste. Comment justement les médias devraient adapter leur approche pour éviter de faits diverser les VSS, finalement, pour éviter de les réduire à des simples faits divers?
Pour moi, en fait, il y a un problème autour du fait divers et de sa définition, y compris parce que pendant très longtemps, le fait divers pour moi, tel que je l'entends, tel que j'ai pu le pratiquer quand j'étais à OS France ou comme je l'analyse maintenant, c'est en fait ce qu'on appelle le fait divers, c'est le premier moment où un fait, une entorse à un contrat social, pour reprendre les termes d'un collègue hier, est produite. Ok, il y a une infraction ou un soupçon d'infraction, quel qu'il soit, Et à ce moment-là, c'est du domaine des forces de police ou de gendarmerie, de l'enquête, des enquêtes préliminaires, etc. Là, on peut encore dire que c'est un fait divers parce qu'on ne sait pas justement où classer. Quoique, à part des affaires comme le petit Grégory, où on a l'impression qu'il y a une affaire familiale, surtout des ressorts d'ordre psychologique et familiaux et pas tant que ça sociétaux, quoi qu'on ait voulu dire le contraire à l'époque, y compris dans les journaux de gauche comme Libé. Pour moi, il y a très peu de faits divers qui échappent aux faits de société. Et d'ailleurs, quand même, pour défendre un peu les journaux, la plupart, sauf CNews, pour des raisons qui sont différentes du Parisien, qui lui aussi a un onglet faits divers propre, mais c'est parce que c'est sa boutique, le fait divers, la plupart des médias rangent les faits divers en société. Et en fait, ça devient des faits de police ou de justice ensuite, ou des faits de société pure ensuite. Voilà. Parce que la première approche, elle est dans l'événement, dans le show, et on n'a pas encore tout bien réfléchi. Voilà. Parce que de fait, on ne peut pas savoir au tout début. Et c'est moi, c'est un fait qui est une obsession chez moi, c'est pourquoi on dit beaucoup trop de choses justement à l'instant show, c'est-à-dire quand un journaliste n'a qu'une source, très clairement, la police. Pourquoi il donne tout, y compris l'origine, y compris la nationalité, quand il ne sait pas encore si c'est un rapport? Ça peut avoir un rapport. Il peut y avoir des phénomènes géopolitiques qui font qu'il y a une nationalité qui est particulièrement remontée contre l'État français et mène un attentat, par exemple. Enfin, il y a eu un événement à Tours la semaine dernière. On y reviendra peut-être. Je m'arrête là.
Non, c'était juste passionnant parce que ça permettait de revenir, justement, on voudrait revenir après sur la récupération politique des faits divers, et vous embrayez très bien là-dessus, mais peut-être que d'abord Emmanuel Dancourt et Florent Pommier...
Non, je voulais juste rajouter un tout petit truc, et je trouvais la réponse passionnante. Nous, ce dont on se rend compte à MeToo Media, c'est que les journalistes, mais dans leur entièreté, quel que soit leur journalisme, ne sont pas formés. Nous, notre truc, c'est les violences sexistes et sexuelles, hein, donc je ne vais pas aller plus loin dans le fait divers, mais ne sont pas formés sur les VSS. Et ça, c'est un problème. Des fois, ils ne savent même pas bien nommer. Ils vont vous parler d'attouchement ou d'abus. Ça n'existe pas en pénal. Non, ça s'appelle une agression sexuelle. Ils vont vous dire, le grand-père couchait avec la petite fille de 12 ans. Non, l'homme violait l'enfant. Et c'est important de bien nommer. Bien nommé, c'est le début du bonheur, peut-être, en tout cas d'une certaine vérité, pour paraphraser Camus. Et donc nous, on donne des formations dans les écoles de journalisme, dans les rédactions, dans les boîtes de prod, des formations expertes qui sont faites par des journalistes qui ont été victimes. Donc on est des deux côtés de la barrière pour apprendre justement à traiter de ces sujets-là. Et je pense que ça participe, pour répondre à votre question, au problème, le fait de ne pas être assez formé.
Concernant la récupération politique des faits divers, on a un petit exemple en amont de la manifestation justement qui a eu féministe du 8 mars, donc là récemment. Némésis, donc le collectif fémo-nationaliste d'extrême droite, a appelé à former un cortège au nom du slogan Elles auraient dû être parmi nous, en affichant les photos de Lola, de Philippine et d'autres femmes dont le meurtre a été récupéré par l'extrême droite. Qu'est-ce que cette situation, finalement, peut nous dire sur la récupération politique des faits divers?
On se regarde toutes en disant « Qui va en premier ?» Ils sont pénibles, ces gens, à avoir des très bonnes questions comme ça. En fait, le problème... Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu du féminisme. J'ai plongé dans ce milieu-là avec l'affaire PPDA et en créant MeToo Media. Avant, j'ai eu la chance d'être dans une famille extrêmement déconstruite, donc pour moi, les choses étaient acquises et je me rends compte que non. Donc je suis encore un petit peu nouvelle là-dedans. Donc je vais essayer de pas vous dire de bêtises. En fait, il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. C'est une famille qui est quand même assez divisée, malheureusement, et qui se divise sur deux grandes questions, la question du voile et la question de la prostitution. Donc soit on est dans abolitionniste, soit on est au contraire pour une certaine prostitution. Nous, MeToo Media, on a pris notre parti, on est abolitionniste. Et puis est arrivé Némésis, qui effectivement a un féminisme à géométrie très resserrée. Je ne sais pas comment dire ça.
Old school un peu quand
old
même.
Old school quand même, ouais.
Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment dire qu'elles sont féministes non, tout court d'ailleurs, Némésis, en réalité.
On est d'accord. Bon, bah donc j'ai pas besoin d'expliquer. Et nous, on n'est pas d'accord avec cette manière de pratiquer ce féminisme-là, qui s'intéresse qu'à un certain type de prédateurs et qu'à un certain type de victimes. Donc les victimes blanches et les prédateurs étrangers. Alors que dans 91% des cas, le mis en cause est quelqu'un que la victime connaît. Donc ça vient battre en brèche. Et donc effectivement, c'est compliqué. Et la politique a beaucoup récupéré le féminisme. Et nous, ce qu'on déplore aussi, c'est que le féminisme, à la base, c'est un sujet de gauche. La droite s'en est pas du tout emparée. Et quand il s'en empare, c'est pour, pardon de le dire comme ça, mais je vais me lâcher, c'est pour dire de la merde. Donc ça, c'est un problème. Et nous, quand on médiatise nos affaires, on n'arrive pas à les médiatiser dans les médias de droite. Alors, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas envie, ça ne les intéresse pas si ce n'est pas quelqu'un d'étranger qui est mis en cause. C'est compliqué, hein.
Sauf, pardon, que quand même, l'avortement, la pilule, ce n'est pas les gens de gauche qui l'ont fait.
Enfin, c'est bien de le rappeler.
Ben, oui, c'est bien de le rappeler. Historiquement, c'est quand même la droite qui a fait avancer des combats féministes. Étonnamment, hein, peut-être.
Oui, mais avec des figures particulières.
Avec des figures particulières. Mais aujourd'hui, que fait la gauche sur ces questions? C'est là que j'ai envie d'interpeller. Comment avancer pour que la gauche reprenne aussi ses combats, son combat progressiste-là?
Oui, bien sûr. Après, pour le cas de l'avortement, il y a quand même beaucoup de militantisme autour qui ont fait avancer l'agenda politique, si je peux me permettre de vous interrompre. Pour revenir juste sur la question de la récupération politique des faits divers, peut-être qu'Isabelle Borde, vous aviez quelque chose à apporter.
Et comment la gauche l'applique à elle-même aussi.
Oui, voilà, aussi, on peut...
Pardon, Isabelle.
En effet, une question très intéressante, je suis d'accord avec vous.
Non, mais ce qui est terrifiant, là, enfin, moi, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je travaille très régulièrement sur le traitement des faits divers et sous le prisme de la déontologie. Enfin, j'essaye de m'y tenir. Ce qui est terrifiant, c'est l'agenda politique, mais explicite, parce qu'encore une fois... Il y a 10 ans, alors, une chercheuse que je vais avoir à la table ronde tout à l'heure me disait que non, c'est plus ancien, mais on avait l'impression qu'il y a encore 10 ans que le Figaro était un journal de droite, très à droite. Bah, c'est réactionnaire sur certains points, mais pas complètement dans la désinformation. Là, ils se sont mis au diapason de la sphère Bolloré qui, elle, a un agenda politique explicite. Et ce qui est problématique... Alors, eux, on les voit très clairement. Donc, là, le problème, c'est quand les gens sont enfermés dans cette bulle-là, parce que du coup, même le fact-checking devient sale quand il est dénoncé par Pascal Pro, et ça donne le sondage qu'on va avoir sur Via Voice, où on voit que le fact-checking, bah, c'est pas si bien que ça pour un tiers des gens. Enfin, c'est effrayant. Et je suis en train de perdre le fil. Mais ce qui me fait peur dans le traitement des faits divers aujourd'hui, la récupération politique qui en est faite, c'est que justement, il y a plein de médias, maintenant je dis normaux, c'est-à-dire ceux qui, on ne peut pas dire neutres, on ne peut pas dire objectifs, tout ça, mais qui n'ont pas un agenda politique explicite, cynique, voilà, et qui se font avoir. Mais alors, est-ce que c'est la fabrique de l'information qui empêche d'avoir le temps de réfléchir? Est-ce que c'est nos biais qui font qu'on reprend? Un exemple précis et un peu long, ce qui va faire l'objet de ma prochaine chronique, là, le week-end prochain, normalement, dans Arrêt sur image, c'est il y a eu une polémique, c'est pas tout à fait un fait divers, mais c'est dans la rubrique police-justice. Il y a eu la Dépêche du Midi annonce qu'il y a eu des massages offerts, tous les mots ont leur importance, à des détenus pour... la Saint-Valentin, à la prison de Seyss-Toulouse. Il n'y a que la Dépêche qui sort ça sur la base d'un communiqué d'un syndicat surveillant qui... Tous les syndicats de surveillants n'étaient pas d'accord avec ça. Bref, ils sortent ça, toute la presse ne reprend... Ça, c'est le vendredi, j'entends la Saint-Valentin. La presse ne reprend que... Alors, je ne sais pas si c'est après un tweet de Gilbert Collard ou pas. Bref, en tout cas, la presse de droite et d'extrême droite reprend ça le dimanche. Et le lundi... ça s'ouvre surtout sur plein de journaux, pas tous, et bien sûr avec l'idée qu'il y a des massages qui ont été prodigués à Saint-Valentin, c'est faux.
Est-ce que c'est pas justement par manque de temps de...
Alors justement, c'est ça, je voulais y venir, je développe juste un peu, je développe juste un petit peu, parce que ce qui se passe, c'est que, donc, voilà, l'info est donnée, et comme Darmanin, et c'est là où il y a une politisation, une récupération politique, mais maintenant qui est éhontée, systématique, et depuis que Darmanin est au pouvoir, même si c'était Sarkozy qui avait un peu lancé le bal, ouvert le bal, maintenant, comme Darmanin a repris, ouais, je vais faire une circulaire, c'est scandaleux, ces activités ludiques, ce qui au passage montre que le garde des Sceaux ne connaît rien à la politique
carcérale,
merci. Comme ils pondent une circulaire, là, tous les journaux raconte que Darmanin s'énerve et va pondre une circulaire, mais en reprenant, suite au massage prodigué à la prison d'arrêt, à la maison d'arrêt de Seyss, sans à l'indicatif, selon la dépêche, personne n'est allé vérifier. C'est France 3 Occitanie, le mardi seulement, qui débunk tout Et après le debunk, après toutes les informations factuelles de France 3 Occitanie qui donc explique que c'était un atelier comme un autre, que ça tombait le 14 février, que c'était une coïncidence, qu'il n'y a pas eu de massage prodigué, que personne n'a touché les détenus, et puis so what, et puis quand bien même, enfin etc. Mais personne n'a repris ça à part Libé qui a fait un check news. Personne n'a démenti alors qu'on a continué à reparler de cette histoire de circulaire. Et moi, c'est ça qui m'inquiète.
Et justement, enfin, le fait que les médias jouent un rôle dans la récupération politique des faits divers, comment on pourrait éviter, ou du moins les solutions qu'on pourrait trouver pour que ce genre de choses arrivent le moins possible?
Ça s'appelle l'éthique, ça s'appelle la déontologie. Tant que ce ne sera pas appliqué dans les rédactions, on va avoir un problème. Il faudrait un responsable éthique dans chaque rédaction, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence.
Alors justement, c'est drôle, on avait un échange hier avec mon ancien rédacteur-chef de West France. Et moi, je leur posais la question, parce que moi, je suis rentrée à West France par idéalisme, un peu justement, déjà, la déontologie, tout ça, parce que la charte a plus de 30 ans à West, et elle est très bien faite, cette charte. Elle est très très bien faite, et elle est assez... et puis elle insiste sur un truc majeur qui est, on doute, on discute, on peut appeler le rédacteur-chef sur un truc, etc. Sauf que personne ne le fait, parce que quand on appelle le rédacteur-chef, bah, c'est quand même ressenti un peu comme un échec. Donc, on essaye de se démerder tout seul. Et puis surtout, la structuration des conditions de travail fait que c'est juste impossible. Parce qu'à West France, il y a plein de journalistes en détaché, il y a plein de débutants. Il y a tous les stagiaires été qui sont juste en première année, que quelquefois on laisse tout seul le premier week-end. Le week-end, il se passe quoi? Des accidents ou des plus que les autres jours. Donc moi, j'ai demandé comment il structurait. Bien sûr, il n'a pas répondu. Comment structurellement on se donnait les moyens de faire respecter la déontologie. Mais après, je pense surtout qu'il faudrait qu'on arrête aussi de se dire « Oui, nous, les journalistes, on se flagelle toujours. » Non, c'est pas une question de flagellation, mais regardons-nous bien. Et puis agissons. Parce qu'au prétexte de ne pas se flageller, ben, on continue.
Est-ce que tu as encore une question?
Très, très vite,
parce qu'on c'est bien, on touche bientôt à la fin de cette interview. Si vous avez encore une réaction, peut-être.
Juste dire que journaliste est resté journaliste. Donc en fait, la récupération politique, c'est pas, on n'est plus dans le journalisme à 100% là. Donc laissons les politiques s'énerver. Et ce serait bien d'arriver à défendre auprès de son rédacteur en chef, de sa rédactrice en chef, que ce n'est pas un sujet là pour le coup. Ou alors de débunker l'histoire. Non, ok, il y a récupération, mais nous on va aller au-delà et on va le prendre autrement. C'est une discipline interne aussi, intérieure, hein, intellectuelle, du journaliste, de la journaliste. Et de se dire, tout dans la charte doit être appliqué, notre charte de déontologie, elle a plus de 100 ans. Mais relisons-la aussi de temps en temps, s'il vous plaît.
Eh ben, merci beaucoup Emmanuel Dancourt, Florent Pommier et Elisabeth Borne. C'était une
discussion. Isabelle Borde.
Excusez-moi, Borde.
Pardon.
Incognito.
Ça aurait été très chouette. Mais merci pour vos réponses. C'était super enrichissant. Et puis ça permet aussi d'amener énormément de discours sur le fait divers, qui n'est pas seulement du fait divers, mais vraiment un fait qui peut être politique, qui doit être justement plus analysé dans aussi le journalisme, dans toutes les techniques du journalisme. Donc merci beaucoup pour votre intervention.
Merci.
Et on passe sans plus tarder à la revue de presse de Emeric de Radio Campus Angers. Comment vas-tu déjà, Emeric?
Bah, salut Antonin, alors ça pourrait aller un peu mieux parce que j'avoue que mes lectures elles n'étaient pas très réjouissantes.
Bah pourquoi? Je comprends pas trop, qu'est-ce que t'as lu?
Eh bien, pas tant adepte des faits divers, je me suis interrogé ce matin. Comment les faits divers deviennent des faits politiques? Et en fait la réponse elle est simple, tout peut le devenir. Il suffit des bons ingrédients au bon moment. On a tous entendu parler de cette sordine histoire de Betarab par exemple, une affaire qui s'étend sur plusieurs décennies mais qui ressort quand François Bayrou est nommé Premier ministre. Ça tombe parfaitement bien, d'autant que les signalements étaient déjà là quand il était ministre de l'Éducation nationale. Dans Le Monde, ce matin, on retrouve la mention de l'affaire dans un article qui titre « La parole se libère ». Avec une image d'illustration de Notre-Dame de Garaison, le nouveau Betarab, comme il a été dit sur France Inter, j'y apprends que des collectifs de victimes se sont formés dans de nombreux autres établissements. Le but, sortir de l'omerta, de la loi du silence. À l'origine de l'article, une myriade de faits divers, des enfants victimes de violences physiques et sexuelles aux quatre coins de la France. Et en les recoupant, on a un phénomène structurel et récurrent qui mène à la page du jour et à un fait politique. Dans l'article, il y a une description précise de la nature des sévices avec mention des instruments utilisés, comme la règle en bois, et l'évocation de celle-ci sert même d'intertitre à l'article. Mais on ne retrouve pas de précision quant à l'endroit où ils se sont produits. Différentes régions, différents enfants, mais même problématiques, même violence et mêmes histoires.
Tu as vu d'autres histoires qui révèlent du fait divers dans le monde ?
Oui, et je me suis dit peut-être que le fait politique produit aussi le fait divers. En face de l'article de Bétarame, je découvre l'histoire de Valentin, 15 ans, de Château-Vilain. Impossible de décoller l'œil de cette page entière qui décrit l'exécution méthodique des parents par l'adolescent et qui revient aussi sur les troubles psychologiques dont il souffre. À la lecture de l'article, on est rassuré d'une certaine façon sur notre propre existence. C'est peut-être aussi ce qui nous passionne tant dans le fait divers. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander si cet article serait paru s'il n'avait pas entendu parler, si on n'avait pas tant entendu parler ces derniers mois d'autorité et de la nécessité de la restaurer, de durcir les peines contre les mineurs et enfin de la loi Attal. N'est-ce pas ici le fait politique qui a permis à ce fait divers d'être dans le premier quotidien de France ?
Et dans la presse régionale ?
Alors au détour de Ouest-France-Sartre, j'ai peut-être ma réponse. Pierrick Baudet, journaliste, titre « Avec le procès des viols de Mazan, nous sommes au-delà du fait divers ». Cet article, c'est un entretien avec Emmanuel Roux, un spécialiste de la philosophie politique. Il met en avant la dimension sociétale du fait divers. L'émoi provoqué et la compassion envers Gisèle Pélicot, c'est aussi un mouvement de colère contre ce qu'on appelle la culture du viol. C'est un fait divers qui vient mettre sur le devant de la scène des problématiques trop longtemps ignorées et qui ne sont plus acceptées. C'est sûrement la même chose pour Bétarame. Finalement, je me demande si c'est pas la même chose pour même tous les faits divers. Et enfin, je finis mon tour des journaux en ouvrant La Montagne, le quotidien de Centre-France, à la rubrique faits divers, encore une fois. Hier, un policier a été filmé en train de frapper une personne en fauteuil roulant. C'est un article très court, très sommaire, mais qui revient sur un problème de société. Est-ce que l'on aurait vu le même article il y a 30 ans ? Est-ce que ce ne serait pas le prochain débat de société ou le prochain scandale ? Peut-être qu'à l'image de la culture du viol, ou encore de celle de l'omerta dans les institutions catholiques, les violences sur les publics plus fragiles peuvent se retrouver au centre de la politique.
Merci beaucoup Aymeric pour cette revue de presse qui ouvre d'autres portes et surtout qui ouvre la réflexion sur le rapport entre le fait politique, quoi, le fait divers et le fait politique. On se écoute tout de suite Eminem et son titre Scary Movie pour la dernière pause musicale. Yo, Slim Shady. Yo, Boys 5'9".
Yeah, I'm one of them pretty rappers. Fuck if I really have to, I really slap you. King of Detroit, who they naming the city after?
What?
Scantless partners, who's Grammy hammers the hard shit into your heart with content you don't wanna start with. Expert, bad and evil is coming soon. MCs get stuck head first back in their mother's womb. The shit is written, in my eyes I'm the illest MC spitting.
What?
Leaving all of you cash shitting kittens. I got a dish you, my niggas be cocking pistols. Shot and split you, fuck splitting the profits with you.
What?
6% of y'all niggas is just pretend. Clicks with clicks, pussy niggas stick with dicks.
What?
Niggas act bully and blast for the fast penny. My auto is fully, plenty of your niggas pack a semi. Speak dark, yo you get paid.
What?
Rhyming about it is the sweet part. You can't be street smart with a cheap heart. 5'9", a street nigga with deep feeling.
What?
I keep illin', my steez willing to keep killing.
What?
Fuck rap, a lot of y'all all is just acts. Trust that, you rhyme all whack on rough tracks.
Bust,
and then we all black when you get bust back at.
Fuck that,
you get blast at, you get laughed at.
You can jump right out of the screen and barely move me. We hard hitting, directing and starring in it.
On vient de s'écouter Scary Movie de Eminem et l'émission approche de sa fin. Alors j'en profite pour remercier toute l'équipe de Radio France pour l'organisation de l'émission. Je remercie également Radio Campus Tours pour leur accueil et bien sûr toutes les Radio Campus qui diffusent notre émission en direct. Et merci également à François qui est à la technique. On va se faire un petit retour sur les ateliers EMI, donc un peu pour cette dernière de cette émission d'aujourd'hui. On reçoit aujourd'hui Sébastien. Bonjour Sébastien. Donc tu es chargé des ateliers d'éducation aux médias et aux informations pendant les assises du journalisme. Sébastien, tu organises un peu des ateliers avec des étudiants, quoi, des collégiens et des lycéens, et tu invites à leur faire prendre la parole au micro, à la radio. On va s'écouter d'ailleurs une petite capsule de ces ateliers radio.
Bonjour chers auditeurs, vous écoutez Radio Campus Tours, nous sommes aux assises du journalisme de Tours et moi je m'appelle Lilou. Aujourd'hui, on va vous parler de notre club radio. Pour en parler, je suis avec Mathilde. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste notre club au collège ?
Bonjour, on est 11 élèves de différentes classes et on fait de la radio une fois par semaine.
De quoi parlons-nous au club radio ?
On parle de différents sujets, cela dépend des émissions. Par exemple, les JO ou Noël, etc. Et en ce moment, on est en train de préparer une émission sur Bourges.
Mathilde, est-ce que tu peux nous dire comment nous travaillons ? Comme des vrais journalistes ?
Oui, on choisit un sujet, on écrit un texte, après on va répartir qui dit quoi. Ensuite, on enregistre notre émission.
Un conseil pour celles et ceux qui voudraient devenir journalistes ?
Il faut vérifier si l'information est vraie et ne pas croire tout ce qu'on dit. Et surtout, se lâcher et profiter.
Merci pour ta participation, Mathilde. C'était Lilou sur Radio Campus Tours. À très bientôt.
Bonjour, je m'appelle Joachim, je suis élève de 5e au collège Michelet à Tours. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nino pour vous parler de Régis, un CRS qui n'est jamais passé sur W9.
Un miracle ! Malgré les 895 numéros annuels d'enquête et action 90 minutes enquête, Régis, 35 ans, CRS, n'est jamais passé sur W9. Voici ses paroles.
Je ne sais pas comment c'est possible, je ne croise pas un collègue qui ne soit pas suivi par une caméra de W9. Pourtant j'en fais des bavures sur des individus d'origine maghrébine, je ne sais pas ce qui ne va pas, pardon, termine-t-il avant d'aller sangloter dans son fourgon. Quelques heures plus tard, enfermé dans un bureau, Régis se livre à nous.
Je ne cache pas qu'au boulot, c'est lourd à porter. Même les nouveaux, ils ont au moins eu une apparition. Là, c'est la honte. Je crois que j'aurais préféré qu'on me découvre que je vote à gauche, on m'aurait un peu moins charrié. Dépité, Régis ne souhaite pas autant démissionner.
Je dois me remettre en question. Une fois, j'ai mis une amende à un homme blanc de plus de 50 ans qui était ivre au volant, et ça, le public n'aime pas. Les sources de cet article ont été publiées par le Gorafi, un journal qui fait des fake news, donc cet article est faux.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le Gorafi, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on en avait parlé en classe, on avait découvert ça. C'est quoi le but de ce site internet et de ce journal ?
C'est de diffuser des fausses informations.
Ouais, mais dans quel but ? De tromper les gens ou de rigoler un peu ?
Un peu les deux, mais surtout de rigoler.
Ouais, voilà. Donc vous vous souvenez de l'adjectif qu'on utilise dans un journal qui fait de l'humour ? Alors qui trompe, enfin, il y a une fausse information, mais ça a des fins humoristiques. On dit que c'est un journal, c'est satirique. Voilà. Alors, le but, c'est de se moquer. Donc là, c'était de se moquer d'un fait divers. Et ils avaient tourné le truc de manière un peu humoristique. Vous vous souvenez de l'article qu'on avait travaillé sur un article du Gorafi en classe. Vous vous souvenez de quoi il parlait ?
C'était sur une boulangère qui avait tué. Une personne car il avait mal prononcé le nom. Il avait prononcé chocolatine à la place de pain au chocolat.
Ouais, ou l'inverse, il avait dit pain au chocolat à la place de chocolatine et la boulangère lui aurait tiré 46 balles de revolver dans le corps pour le punir. Voilà. Et vous vous souvenez de votre réaction en classe ?
Moi je connaissais le Gorafi, du coup je savais que c'était faux. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était vrai.
Et on vient de s'écouter une capsule de vos ateliers EMI. Donc rebonjour Sébastien, bonjour Pierre.
Bonjour à toutes et tous.
Déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment se passent vos ateliers, donc qu'on le rappelle, qui sont au Palais des Congrès, dans le cadre des Assises du journalisme de Tours. Comment ça se passe ? À peu près combien d'élèves vous accueillez ? Pendant combien de temps ?
Alors c'est un exercice un peu particulier aux Assises du journalisme, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne fait pas le reste de l'année. Ici il s'agit d'accueillir du matin au soir, hein, sur le temps d'ouverture du 26 sur les Assises, des groupes d'élèves sur un temps qui dure 40-45 minutes et dans lesquels on doit leur proposer à la fois une découverte du média radio et en même temps faire des activités autour de l'éducation aux médias et à l'information. Donc c'est des classes de collégiens et lycéens, et comme on tourne sur des créneaux de 45 minutes, on a le temps de voir entre 3 et 4 classes par jour, donc ça fait un certain nombre d'élèves assez important. Et évidemment par contre le reste de l'année on travaille pas comme ça, sur des groupes qui défilent durant toute une journée, mais c'est le défi, c'est le challenge un peu des Assises que de proposer ça comme première entrée dans l'EMI sur ce temps.
Et est-ce que justement ces ateliers sont préparés en amont par les élèves ou ils arrivent et ils sont un peu briefés par toi? Comment un peu ils s'emparent? Comment tu arrives à les faire emparer aussi de l'atelier sur un sujet? Est-ce que c'est eux qui vont choisir un sujet ou comment ça se passe?
Alors, tu as plusieurs cas de figure. Là, les capsules qu'on vient d'entendre, sur la deuxième, vous l'aurez peut-être compris, parce qu'on a parlé de choses qu'on avait faites en classe avec les élèves. C'est des élèves d'un collège avec qui on travaille depuis, à Radio Campus Tours en tout cas, on travaille depuis plusieurs années. Et la classe en question, ça fait plusieurs mois que je les vois régulièrement en classe. Donc là, ils sont venus aux Assises avec déjà une certaine habitude. Enfin, en tout cas, ils connaissent Radio Campus Tours. Moi, je les connais. Donc je savais de quoi ce qu'on allait faire ce matin.
C'était truqué en fait.
Voilà, c'était truqué. Non, en fait, c'est juste que c'est déjà des habitués de la radio et de l'éducation aux médias parce qu'ils travaillent ça avec leur documentaliste, Madame Coudreau. Et il y a aussi l'autre cas de figure où tu as des élèves qui viennent, ils viennent aux Assises, ils viennent d'autres départements, donc on les connaît pas. Et donc là, le challenge, c'est de leur proposer sur 40-45 minutes une activité qui puisse donner lieu à une production sonore, où ils puissent après, dans un second temps, je recontacterai les professeurs pour leur dire qu'il y a eu un podcast de créer, et puis aussi qu'on puisse faire une activité autour de médias.
Et justement, pour ces jeunes qui font peut-être pour la première fois de la radio, qu'est-ce que ça leur apporte, Pierre, ça?
En fait, ils découvrent littéralement un univers qu'ils entendent avec leurs parents dans la voiture, même eux-mêmes en podcast ou je sais quoi, ou d'autres formats. Et en fait, ils découvrent vraiment l'envers du décor et ça, on voit que ça change quelque chose dans leur regard. Moi, je sais que même quand j'anime des ateliers EMI à Rouen, du coup, je le vois bien, en fait, ce truc de dès que tu leur fais découvrir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dès que tu leur fais découvrir, en fait, l'envers du truc, et ben là, leurs yeux s'illuminent parce que quand tu leur parles comme ça de la radio sans vraiment matériel radiophonique, ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'on fait. De la portée en fait de leur travail, tout ça, et dès qu'on les emmène en studio, dès qu'il y a du matériel, dès qu'on les laisse s'exprimer à la radio, là tout de suite on voit que ça allume quelque chose en eux, et donc c'est ça qui est assez fort. Et je l'ai remarqué avec tes ateliers, Sébastien, que effectivement aussi c'est assez universel comme ressenti, quoi.
Et justement, toi qui fais des ateliers à Rouen, est-ce que tu as appris de nouvelles choses de Sébastien? Comment un peu ça se fait aussi ce réseau dans les ateliers EMI de Radio Campus?
Là, en fait, moi, j'en fais que depuis janvier, donc c'est très très récent. Et effectivement, j'avais pas toutes les clés nécessaires par moment, selon les publics avec lesquels j'interviens, tout ça. C'est pas la même chose, et je savais pas forcément gérer ces différences-là, tout ça. Et là, le fait de te voir, toi, Sébastien, animer ça, et tu le fais depuis un peu plus de temps que moi, ça m'a donné beaucoup d'idées. On a eu tout à l'heure un temps d'échange, justement, sur ce qu'il faut ne faire ou ne pas faire, ou ce qu'il faut éviter, ou ce qui est mieux. Dans un atelier EMI par exemple, rendre les choses plus visuelles, plus interactives, tout ça, et c'est des choses que j'avais pas forcément prises en compte moi personnellement, et du coup voilà, on a eu ce temps d'échange en tout cas dans le cadre des Assises et des ateliers Radio Campus France.
Merci beaucoup d'avoir répondu au micro pour ces ateliers EMI. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous les invités d'avoir répondu au micro. Merci à l'équipe de la rédaction de l'émission. On remercie également toute l'équipe de Radio France pour l'organisation de l'émission. Je remercie également Radio Campus Tours pour leur accueil, et bien sûr toutes les radios campus qui diffusent notre émission en direct. Merci également toujours à François à la technique. Si vous avez manqué un bout de l'émission, vous retrouverez l'émission en podcast sur les sites de Radio Campus. Très belle soirée à vous tous et à bientôt sur Radio Campus.
Les Assises internationales du journalisme de Tours 2025. Fait divers à la une avec les radios du réseau Radio Campus France.
Merci de l'invitation spontanée.
C'était très spontané. Not placed.